la cronica de literatura paisana amb Mahmoud Alaya. Adicias Mahmoud, bonsoir.
Bonsoir, Adicias.
Alors, aquesta ser la cronica de literatura paisana, de literatura paisana, presentada per l'Associació des Escrivains Paisans, va aquí. Anem a parlar d'una altra faceta,
sí,
d'un convidat que nos és vengut del costat de Florent, non, c'est pas à quoi, me souvenir pas, héros, le Jean-Louis Quereillac,
oui,
paysan de Gers,
oui,
qui nous contait une poule d'histoire, une poule de conte, hein.
Ouais.
Et d'un premier, quel est à quel Jean-Louis Quereillac, per lui, que, comme il est, de quoi ce qu'il y a, Louis Alzheimer, joue des tours. Que me bon. Souvenir, refresque-moi la
même.
Si,
c'est bien, oui, il faut rappeler toujours quand même qui est ce monsieur. C'est, bon, il est né bientôt 90 ans, hein. Il est né le 21 juillet 1920, le 22 juillet 1921.
Ah.
Donc ça fait bientôt 90 ans.
Eh, hein. Bah, qui ouh,
en pays de Gascogne, dans une famille, sa famille faisait un peu de commerce à Plaisance du Gers, et ils avaient aussi une exploitation, ils exploitaient un petit domaine agricole. Bon, donc, mais ses parents, ils ne le destinaient pas à l'agriculture, ils voulaient en faire un technicien, enfin un technocrate, ou un, enfin bon, ils l'ont mis à faire des études.
Et a acabat tout... à Paris, comme tout bon voilà, stagiaire de Gers.
Mais attends, mais lui
le grand, à Paris.
Au lycée, lui le grand. Hein. Il a fait des études, il a fait une licence en droit, une licence en lettres, etc. Et puis après, tout ça s'est stoppé en février...
43, voilà, pendant la guerre.
Voilà, 43. Alors, il s'est réfugié dans sa ferme, dans le Gers, hein. Mais il fut envoyé comme STO.
En Autriche.
Voilà, STO, service du travail obligatoire en Autriche.
En Autriche.
Et oui. Voilà, et il a passé là 2 ans affreux au four et au laminoir dans une aciérie en Autriche nazie. Hein.
Et tournera en agosto de 1945, voilà. Un peu escrancat, la santat, un peu...
Voilà, ce sont ces termes, il était complètement déboussolé et puis délabré et tout ça. Et alors, c'est dans la ferme qu'il a trouvé finalement sa place, quoi. Hein, et l'ouvrier du domaine l'a pris en affection et lui a appris le béaba de tout ce qui est agriculture, comment joindre les bœufs, comment tailler la vigne, et tout ça.
Junior Luparel.
Voilà, et il est devenu paysan. Voilà, et à l'âge de 26 ans, il a été élu maire de Plaisance du Gers, de son village, donc tout jeune.
Hein? Bah, qui est le consul, le premier consul.
Voilà, et wow. après 3 ans après, il est devenu aussi conseiller général. Et puis il est resté presque 40 ans, plus de 40 ans, dans ses deux fonctions, maire. Et donc il a bien connu, disons, son village et les instances de la société agricole, etc. Et puis finalement, il a affermi, enfin, il a pris en fermage un domaine.
800 hectares, oui, camarades. 800 hectares. Oh, voilà, c'est pas mal.
Qui était à l'abandon. Hein, il a tout. Ah oui, c'était à. Disons.
L'Icalio de Bouziga, l'Icalio de Bartassa et tout.
Voilà, il fallait tout refaire. Il fallait tout travailler, etc.
À cause d'une. Ouais.
Alors, bon, ça, c'est son côté, disons, professionnel, agricole et responsable, disons, élu local, etc. Mais nous, on va s'intéresser à son œuvre littéraire. Dans son premier livre, c'est sur le STO. Il l'a écrit en 58. Voilà.
Mm-hmm.
Et ce livre, il vient d'être réédité là en 2010 parce que bon, il y a une demande, disons.
Alors c'est chez Deboré.
Deboré. Il a été réédité chez Deboré. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est son premier livre. Et puis, il suivirent une bonne dizaine d'ouvrages. sous forme soit de témoignages, récits, romans.
Roman historique ?
Roman, oui, roman. Et, mais c'est ça, c'est la Gascogne. Il, il raconte son pays, son expérience, sa vie, etc. dans ses ouvrages. Alors,
Dinger, Sloufe, Djegra, Slougit, Engizera, Lougit.
Alors, quelques titres hein, sur la fortune des Armagnacs.
Ah, hein. Grand Oustal des Gascognes.
Voilà,
Armagnac,
voilà.
Une famille fine,
oui.
Là.
Un tel maire, le préfet au champ, le meunier sans moulin, etc.
Bon.
Et puis, il y a, alors récemment, il a écrit 3 livres, une vraie saga paysanne, sur le
triptyque.
Voilà,
triptyque.
C'est ça, sur le Gers. Et puis, ça a été réédité par De Boré, là aussi, récemment, en 2007. C'est un gos volume, là, que 3 sillons de terre rouge.
Va qui premiat l'an passat al premi Louis Malassi.
Voilà, c'est hein, Louis Malassi.
Va qui so que avien, so, bien, à l'escasence de la remise del premi, avien voilà. Recebut le seigneur Jean-Louis Kerriac. À qui dis-nous sur les radios Languedoc.
Voilà, à tout ce beau palmarès d'écrivains, vient s'ajouter un recueil de poésie qu'il a intitulé « Saison en Gascogne ».
Tout un programme.
Alors, nous allons revenir sur ce recueil de poèmes parce que nous allons lui donner un peu la parole pour qu'il nous dise quelques poèmes sur ça. Mais d'abord, je dois dire que Jean-Louis Kerriac est membre de l'Association des écrivains et artistes paysans. Et cette association a vu le jour en 1972 dans sa mairie.
Mentre fazio de consumage de Plaisance.
Plaisance du Gers.
Inaugurait à qui est créée une association d'écrivains et artistes paysans.
Voilà. Et alors, il a présidé aussi cette association quelques années, hein, entre 1997 et 2003. Il a été président, donc c'est un fondateur et aussi un ancien président. Et je rappelle, disons, l'adresse de l'association, l'adresse internet pour les auditrices et auditeurs.
Alors, Fao sabe que hay des fans qui sont à l'écoute. Donc, yo, Fao, wow, punch. D'accord? Et après, as-tu.
Wow, punch.
Yo, lui dis après, as-tu.
Écrivain, paysan, écrivain au pluriel, -paysan.com. Hein? Donc, je répète. Wow,
punch. écrivains-paysans.com.
Voilà. Là, les auditrices et auditeurs peuvent trouver beaucoup d'autres informations, évidemment, sur l'association et les autres écrivains, les livres, etc. Ils peuvent même commander des livres. Alors, pour revenir, disons, au poète, si vous voulez, hein, eh bien, son recueil de poèmes, Saison en Gascogne, il le débute comme ça, en disant « Suis-je poète parce que j'écris des poèmes ?» Aux yeux du public, oui, mais à mes yeux, non. Parce que pour lui, enfin, je le cite, hein, « Le poète est quelqu'un qui a reçu un don, celui de voir les gens et les choses autrement. »
À quoi se dirio, le poète, hein, est-ce quelqu'un qui est... Quelqu'un des doutats a reçu une baki. À quel débeire le monde et la gens d'une autre vieille.
Et moi, il dit, moi, je les vois avec les yeux du cœur, en accompagnant mon regard de ma sensibilité, en l'enveloppant de mes émotions, et en y mettant souvent l'écho des souvenirs qui demeurent. 3 points de suspension.
Okay, alors, à qui ne vont pas faire la rébirade en direct hein?
alors, en effet, tout ça, il y a l'émotion, la sensibilité, les yeux du cœur.
Les yeux du corps.
L'écho des souvenirs. Eh bien, Qu'est-ce que c'est si ce n'est de la poésie? Moi, je trouve que c'est vraiment...
C'est pour dire que c'est une troubadour. Finalement.
C'est un troubadour, voilà. Alors, on va l'écouter. On va l'écouter nous parler de son village. C'est un poème qu'il a fait sur son village.
Pour mon village que j'aime tant et qui me le rend bien. Les rues de mon village... Les rues de mon petit village sont bordées de vieilles maisons. De vieilles maisons d'un étage dont les fenêtres sans façon font à tout venant l'étalage de fines dentelles et jupons qui font rêver tous les garçons aux brunes et aux blondes volages des rues de mon petit village où rient tant de vieilles maisons. Dans bien des rues de mon village, on entend chanter les chansons. Des chansons qui sont le mirage de l'amour, ce gai compagnon qui traîne tout dans son sillage, souvent sans rime ni raison. Un couplet d'amour, une page d'un livre qu'on vit avec passion dans les rues du petit village où rient et chantent les maisons. Hélas, dans les rues du village, quelquefois pleurent les maisons. Derrière leurs volets bien sages, quand la mort, comme le larron, vient frapper et tourner la page d'une vie que tous nous aimions. Alors, quelquefois au village, quand le glas vient des abassons du vieux clocher de mon village, j'ai senti pleurer les maisons. Mais la vie revient au village dans les rues bordées de maisons et l'on rit dans le voisinage sans trop prendre garde aux saisons, au soleil, aux pluies d'orage qui cinglent sur le goudron des rues et dans les passages tout noyés dans les tourbillons de l'eau qui cingle le visage en débarbouillant les maisons. J'aime les rues de mon village qui rient et pleurent à l'unisson de toutes les belles images qu'enchantent ces vieilles maisons.
Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je revois mon coin de rue aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers. Monde neuf, construction ou démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu. Je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mon muguet de dessous de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans. Tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue.
À qui Charles Trenet, sur le 95.4 des Radio Languedoc, c'est toujours l'écoute de Tétutéo de l'Enrique, la chronique de littérature paysanne dédicada cette soir à Jean-Louis Quereillac, vainqueur du Prix Malassi en 2010.
Oui, donc on a déjà un avant-goût de la poésie de Jean-Louis Quereillac, et là, on a choisi ce soir de présenter deux autres poèmes du même cru, hein, de ce recueil de poésie, l'un qui est dédié à son père et l'autre à sa mère.
Donc on va l'oupai et pai et pai et mai.
Après le village, il y a comme ça beaucoup d'autres poèmes, mais on a retenu deux après celui de sur le village, un dédié à son père et l'autre à sa mère. On va l'écouter.
Je l'ai récité la dernière fois, un 11 novembre, un 11 novembre, tous les jeunes avaient fait une commémoration, et il n'y avait plus d'anciens, bien sûr. Et alors, je leur ai dit, je vais vous dire quelque chose que j'ai fait sur mon vieux papa. Voilà, dans tel et tel... Ils étaient bouleversés. Pour mon père, soldat de 14-18, combien de fois les ai-je accompagnés comme mère au moulin Mormor ? Combien d'anniversaires ai-je fêté avec eux ? Maintenant, je suis seul devant ce monument, entouré par l'armée des ombres. Enfant de Gascogne, souviens-toi, 11 novembre, mon père m'a conté ce soir, en riant, de bien belles choses. Il revivait la guerre en rose, ces roses jetées au hasard, de tous côtés, à peine écloses, sur lui et sur son cheval noir. C'était août 1914. La foule criait au revoir et chantait pour que le Prussien se retire au-delà du Rhin en abandonnant ses conquêtes. Et mon père, avec ses trompettes, riait, heureux de son destin. Mon père m'a conté ce soir, en soupirant, de tristes choses. Il effeuillait de pauvres roses cueillies au chemin de l'enfer, à Verdun, la Somme ou l'Isère, où ses amis couchés reposent. Et toutes ces pensées moroses l'amenaient à ne plus vouloir me parler de la guerre en rose et de son vaillant cheval noir. Mon père hésitait en somme au souvenir de tous ces hommes qui étaient morts dans le désespoir des tranchées et dans les trous noirs que les obus dans leur rafale parmi le sifflement des balles creusaient en d'énormes entonnoirs. Mon père m'a conté ce soir ses souvenirs, ces vieilles choses qui semblent sortir du brouillard d'un vieux passé, sanglantes roses cueillies parfois sur le four noir des affres et des cauchemars d'une jeunesse qui expose sa vie pour faire son devoir. Et je l'écoutais sans le voir, sentant combien les noms étranges qui souvent venaient au hasard de son récit cachaient un mélange de gloire et d'horreur partagée. Je crois que mon père a pleuré. Il pensait aux roses d'automne que les ans avaient effeuillées pour assoupir sous leur jonchée la vieille grandeur qui rayonne de leur victoire abandonnée. Mon père m'a conté ce soir de si grandes et si tristes choses que je ne lui ai pas dit bonsoir. Je l'ai laissé seul et mon rose au rêve de ces pauvres roses près du feu, dansant dans le noir. Pour ma mère, je me souviens de l'avoir vue dans ce vieux jardin que j'ai tant aimé. C'était un jardin de curé. C'était un jardin de curé que le beau jardin de ma mère. Tulipes, dahlias et rosiers, tout y poussait à volonté. Sans parler de l'herbe follette qui, parsemée de pâquerettes, envahissait jusqu'aux allées et prenait d'assaut les parterres. Un vrai jardin de curé. Il y avait des géraniums lierres qui retombaient avec gaieté de trois vieilles amphores cassées. Pour compléter l'air débonnaire du beau jardin désordonné, il y avait même des palmiers qui dressaient leurs silhouettes fières de vieux balais tout déplumés. Ils étaient l'orgueil de ma mère qui les soignait avec piété. Je me souviens du banc de pierre où le soir je venais rêver à tous les amours éphémères de ma jeunesse abandonnée. Près du canal bruissant dans l'ombre, lorsque le soir devenait sombre, c'était mon refuge adoré. Ma nuit s'y peuplait des fantômes que je voulais dans ma vie d'homme, et j'y ai bien des fois pleuré. Un jour, dans ma maison de rêve, lorsque j'ouvrirai mes volets sur un jour d'été qui se lève, quand je verrai tous mes rosiers et mes belles allées sablées, je refermerai mes paupières pour contempler dans le passé le vieux jardin désordonné. Alors je reverrai ma mère et son beau chapeau cabossé, redressé les géraniums lierres du jardin que j'ai tant aimé, le bon vieux jardin de curé.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, de petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait les primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jurerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Era la cronica di letteratura paesana presentata per Mahmoud Alaya.